Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce samedi 22 octobre 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information, suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. La 84e flotte de la marine iranienne a mené à bien sa mission dans les eaux libres. En Syrie, la DESA a intercepté des missiles tirés par l'armée sioniste et au moins 19 personnes ont été tuées suite à un conflit foncier au Soudan. C'était les principaux titres. En voici le journal. Après avoir assuré la sécurité de plus de 64 navires commerciaux et pétroliers iraniens dans les eaux libres et internationales, la 84e flotte de combat et de renseignement naval de la marine iranienne est rentrée au port de Bandar Abbas et a été accueillie lors d'une cérémonie officielle qui s'est tenue vendredi 21 octobre en présence du commandant-chef de la marine iranienne, le contre-amiral Irani. La 84e flotte de la marine iranienne, sous le commandement du destroyer 100% iranien Jamaran, assurait l'escorte de navires commerciaux et de pétroliers iraniens pendant 86 jours, protégeant ainsi les intérêts de la République islamique d'Iran en eau libre. En marge de la cérémonie, le commandant-chef de la marine iranienne a parlé de l'importance du 84e groupe naval et a déclaré qu'il a accompli sa mission d'escorte et d'établissement de la sécurité maritime des navires iraniens de la meilleure façon possible dans les profondeurs des océans, notamment en mer Rouge. Il a ajouté que la 84e flotte, au cours de sa mission de 86 jours, a saisi deux navires de surface sans pilote américain ayant commis des infractions à la sécurité maritime. S'adressant aux États-Unis, il a déclaré que les forces américaines doivent comprendre que pour pouvoir naviguer, elles doivent se conformer aux lois internationales avant de prévenir que toute action mettant en danger la sécurité des navires dans la région sera fermement ripostée par l'Iran. Plusieurs explosions ont été entendues ce vendredi 21 octobre au-dessus de la capitale Damas. La DESA syrienne a intercepté des missiles israéliens. La chaîne de télévision syrienne Al-Ikhbariya a annoncé le vendredi 21 octobre que les systèmes de défense anti-aérienne syriens avaient neutralisé une attaque israélienne contre Damas et ses environs en abattant plusieurs missiles. L'agence de presse officielle syrienne Sana a affirmé qu'il s'agissait d'une attaque israélienne et précisé qu'à environ 23h03, vendredi soir, l'ennemi israélien a mené une frappe de missile depuis le nord-est du lac de Tibériade, visant les alentours de la ville de Damas. La DSA syrienne a réussi à abattre trois des missiles tirés et les pertes ne sont que matérielles, selon la chaîne de télévision Al-Ala. Les chasseurs israéliens mènent fréquemment des attaques aux missiles à l'est et au nord-ouest de la Syrie, en violant l'espace aérien du Liban ou les hauteurs occupées du Golan. Les forces militaires israéliennes ont tué un adolescent palestinien et en ont blessé trois autres lors d'un raid nocturne dans le camp de réfugiés de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie. Vendredi, de violents affrontements ont éclaté entre des dizaines de Palestiniens et de soldats israéliens dans plusieurs régions de Cisjordanie, principalement dans les villages proches de Naplus, assiégés par Israël depuis plus de 10 jours, ont indiqué des médecins palestiniens. Ces derniers ont ajouté que 6 personnes avaient été touchées par des balles réelles et 6 autres par des balles en caoutchouc, tandis que des dizaines de personnes ont inhalé des gaz lacrymogènes tirés par les soldats israéliens. Les manifestants palestiniens ont brûlé des pneus et jeté des pierres sur les soldats israéliens, selon les témoins oculaires. L'agence de presse officielle palestinienne Wafa, citant des sources locales, a rapporté que l'adolescent, identifié comme étant Salah Briki, 19 ans, a été grièvement blessé lorsque des véhicules militaires israéliens ont pris d'assaut le camp aux premières heures du vendredi 21 octobre et que des affrontements ont éclaté entre les troupes israéliennes et les combattants de la résistance palestinienne. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé plus tard, dans un communiqué, que Salah Briki était décédé des suites de ses blessures au cou. Des milliers de Palestiniens vivant en Cisjordanie, à Rots occupée et dans les territoires occupés de 1948 se sont dirigés vers la mosquée Al-Aqsa aux premières heures du vendredi matin, malgré les mesures de sécurité draconiennes de l'armée israélienne, et ont accompli la prière du vendredi. Les forces armées yéménites ont lancé vendredi 21 octobre une attaque de drones contre un cargo saoudien au large d'un terminal pétrolier dans le sud du Yémen pour empêcher le pillage des ressources et réserves d'hydrocarbures du Yémen. Des sources locales au Yémen ont signalé vendredi des explosions dans le port pétrolier de Zaba, situé à 15 km à l'est de la ville d'Al-Mukalla, chef-lieu de la province d'Adramout, dans l'est du Yémen, qui est occupée par la coalition saoudo-émiratie et ses mercenaires. Ces explosions sont survenues suite à l'attaque menée par 3 drones d'Asarallah contre le port pétrolier. Le général de brigade Yahya Sali, porte-parole des forces armées yéménites, a indiqué que cette frappe était un simple avertissement à la coalition saoudienne pour qu'elle arrête le vol des ressources pétrolières du Yémen. Ce pétrolier violait l'interdiction de l'exportation des produits pétroliers, une décision prise par les responsables compétents du pays. Le signal d'alarme lancé par Sanaa ne visait également qu'à mettre un terme au projet de contrebande des richesses pétrolières du pays, a-t-il déclaré. Une fois de plus, nous avertissons toutes les entreprises de se plier aux décisions de Sanaa et d'éviter toute tentative de pillage des ressources du Yémen, a-t-il encore souligné. Les dirigeants des États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord vendredi sur une feuille de route de mesures visant à protéger les consommateurs européens de la flambée des prix de l'énergie. L'accord a été conclu après plusieurs heures de discussion sur des propositions visant à réduire les factures énergétiques qui ont explosé en raison du conflit entre la Turquie, et l'Ukraine. Le texte établit une feuille de route solide pour continuer à travailler sur le sujet des prix de l'énergie, a affirmé Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, lors d'une conférence de presse. Le Conseil européen est convenu que, compte tenu de la crise actuelle, les efforts visant à réduire la demande, à garantir la sécurité de l'approvisionnement, à éviter le rationnement et à faire baisser les prix de l'énergie pour les ménages et les entreprises dans l'ensemble de l'Union devaient être accélérés et intensifiés et que l'intégrité du marché unique doit être préservée, indiquent les conclusions publiées du sommet. Des violences intercommunautaires liées à un conflit foncier au Soudan ont fait au moins 19 morts, a indiqué vendredi 21 octobre un porte-parole des Nations Unies. Le coordinateur des opérations humanitaires des Nations Unies par intérim, Eddie Rao, est très préoccupé par les récentes violences au Kordofan occidental et dans l'état du Nil Bleu, a dit Stéphane Dujarric, porte-parole principal du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Citant l'Organisation internationale pour les migrations, il a ajouté que plus de 36 000 personnes avaient fui la ville. À Bab al-Mahi, dans l'état du Nil Bleu, les violences intercommunautaires se sont étendues à plusieurs localités et au moins 1 200 personnes ont été déplacées. Alors que les combats se poursuivent, des rapports non confirmés font état de nombreuses personnes tuées, a dit le porte-parole. Il y a 2 jours, le gouverneur de l'État du Nil Bleu a publié un décret interdisant le déplacement des civils à l'aide de camions dans Wadi al-Mahi, a-t-il noté. La restriction de leur liberté de mouvement empêche les gens de chercher la sécurité et d'accéder aux services de sauvetage, a-t-il dit. Le gouvernement béninois a décidé de nouer un partenariat stratégique entre les forces de défense et de sécurité et la société civile en vue de lutter efficacement contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans la partie septentrionale du pays, annonce un communiqué publié vendredi à Cotonou. Selon la même source, des équipes du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique sillonnent actuellement plusieurs localités du pays pour sensibiliser les leaders d'opinion, les élus locaux, les responsables d'associations de développement et autres sur l'impératif de la coproduction de la sécurité. D'après une récente étude réalisée par la fondation Hans Seidel, partenaire du gouvernement béninois dans la lutte contre l'insécurité, la récurrence des incursions des groupes armés terroristes à partir de décembre 2021 dans le nord du Bénin est loin d'être un phénomène isolé et s'inscrit certainement dans un plan systématique d'attaque transnationale savamment orchestré et coordonné par des criminels dans le Sahel. Voilà, si ça achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Iran exercice militaire. Le CGRI ne tolère la présence d'aucune base israélienne. Baptisé Autorité des forces terrestres du CGRI, l'exercice militaire se déroulant le long des frontières nord-ouest de l'Iran met en garde le régime sioniste contre l'établissement des bases dans les pays voisins de l'Iran, a souligné le commandant des forces du corps des gardiens de la révolution islamique. En marge de l'exercice des forces terrestres du CGRI, qui se déroule depuis lundi 17 octobre dans la région de la rivière d'Aras, l'Arax, dans le nord-ouest iranien, le général de brigade Mohammad Pakpour s'est exprimé en ces termes. Cet exercice montre la capacité et l'autorité des forces armées de la République islamique d'Iran. L'exercice militaire ayant comme mot d'ordre l'Iran fort et puissant se déroule durant une dizaine de jours dans le nord-ouest du pays et plus précisément sur les rives du fleuve Aras. Nous sommes présents dans la région avec pleine autorité, a déclaré le commandant des forces terrestres du CGRI. Et de poursuivre, l'Iran accorde une importance toute particulière à la région du Caucase. Aujourd'hui, les militaires du régime sioniste planifient d'établir des bases militaires et celles de renseignement dans certains pays voisins. Nous avons donc organisé un grand exercice baptisé « Autorité des forces terrestres du CGRI » dans la région d'Arax pour contenir cette action insensée de ce régime factice. Le général de brigade Pakpour a affirmé « La République islamique d'Iran s'est infiltrée dans les portes d'Israël, mais c'est une chimère qu'il puisse lancer des bases près de nos frontières, car nous ne le lui permettrons jamais ». Il a déclaré que la défense des intérêts nationaux et de la sécurité du pays faisait partie de la ligne rouge des forces armées iraniennes, avant d'indiquer que toute modification des frontières affectera l'autorité et la présence de l'Iran dans la région d'Aras. D'où la tenue de cet exercice d'envergure qui porte un message aux pays ambitieux. Le commandant des forces terrestres du CGRI a déclaré que l'exercice d'envergure du CGRI dans la région d'Aras était un tournant dans les actions des forces armées, avant de conclure. Le déploiement de 500 véhicules militaires lourds au cours de cet exercice montre notre détermination et notre puissance pour défendre le pays face aux pays agresseurs de la région. Pour rappel, l'exercice baptisé « Autorité des forces terrestres » du CGRI a débuté lundi 17 octobre dans la région d'Arras avec pour objectif de renforcer l'état de préparation au combat des forces terrestres du corps des gardiens de la révolution islamique. Couvrant le nord de la province d'Azerbaïdjan et l'est de la province d'Ardabil, l'exercice s'étend le long des frontières nord-ouest de l'Iran.
Bonjour à tous, bienvenue sur nos plateaux de télévision, de Presse TV, ici à partir de Téhéran. Aujourd'hui, un sujet, le sujet de la résistance au Moyen-Orient et notamment l'arrivée du Hamas en Syrie, étant venu voir M. Bachar al-Assad, le président syrien. Comme d'habitude, concernant nos débats, nous avons d'abord un petit reportage à vous proposer. Et par la suite, nous ferons venir nos invités, notamment des invités en système vidéo. Ce que je vous propose à l'heure actuelle, c'est donc de mettre en place le reportage.
Le président syrien Bachar al-Assad a reçu le 19 octobre une délégation de représentants de factions de la résistance palestinienne, dont un responsable du mouvement Hamas, à Damas. Khalil al-Haya, le chef adjoint du mouvement Hamas à Gaza, a déclaré que la rencontre avec le président syrien Bachar al-Assad a été chaleureuse. Il a exprimé sa détermination à apporter tout le soutien de la Syrie au peuple palestinien et à sa résistance. Un jour auparavant, le Hamas avait confirmé qu'une délégation de la direction du mouvement arriverait à Damas le 18 octobre pour une visite officielle pour la première fois en 10 ans. Cette visite intervient après la tenue de négociations privées entre le Hamas et les dirigeants syriens, sous la médiation du Hezbollah, au cours desquelles ont été évoquées les raisons pour lesquelles le mouvement a quitté Damas en 2012. Lors de sa rencontre avec le président Assad, le responsable palestinien a déclaré que cette visite est une preuve éclatante que l'esprit de la résistance est renouvelé, adressant une lettre de défi à l'occupation israélienne selon laquelle le rassemblement est une réponse à ses projets. La rencontre avec Assad est un jour glorieux et à partir de maintenant, nous allons reprendre notre présence à Damas pour travailler aux côtés du peuple syrien pour retrouver la stabilité du pays, a ajouté Haya. Selon Haya, les représentants des factions palestiniennes ont assuré Assad qu'il se tenait aux côtés de la Syrie et de son intégrité territoriale contre toute agression qui la vise. Nous supprimons toute action individuelle qui n'a pas été approuvée par la direction du Hamas et nous avons convenu avec le président Assad de tourner la page sur le passé, a déclaré le chef adjoint du mouvement Hamas. Par ailleurs, le responsable palestinien a précisé que le Hamas a informé les pays avec lesquels il entretient des relations de sa décision de rétablir les liens avec la Syrie, expliquant que cette décision a été prise par le Hamas seul. Il a également salué le rôle de la Syrie dans la région, soulignant que la relation avec Damas donne de la force à l'axe de la résistance et à tous ceux qui y croient. Le Hamas a également publié une déclaration exprimant son appréciation du leadership de la Syrie et de sa position de soutien au peuple palestinien dans sa lutte contre Israël. En 2008, la Syrie a accueilli plusieurs commandants militaires du Hamas pour des recherches sur les drones et les missiles et les a aidés à améliorer leurs drones de surveillance et de combat.
Alors, chose qu'on oublie très souvent en parlant du Moyen-Orient et de la Palestine, c'est que la Palestine n'est pas le seul à devoir supporter la colonisation israélienne, puisque la Syrie est également victime de ce genre de colonisation illégale. Maintenant, nous allons accueillir donc nos deux invités. Notre première invitée étant Madame Aïssar Midani, notre experte politique, directement basée à Damas. Bonjour, Madame Aïssar Midani.
Bonjour à vous, à votre équipe, et merci de votre invitation et à tous les auditeurs.
Deuxième invité étant notre expert également en questions politiques, M. Amrouni. Bonjour, M. Amrouni.
Bonjour à vous et bonjour à votre invité bon vendredi à tout le monde.
Merci à vous. Alors, la question d'aujourd'hui est forcément la rencontre de cette semaine entre le Hamas et Bachar al-Assad, président syrien. Je viens d'indiquer qu'il n'y a pas que la Palestine donc, qui est victime de la colonisation illégale de l'entité sioniste, puisque la Syrie, dans le Golan, est également victime de ce genre de colonisation illégale. Madame Aïssar Midani, pouvez-vous faire le point sur l'importance de cette rencontre qui a eu lieu cette semaine ?
C'est un retour du Hamas. Effectivement, c'est quelque chose d'assez historique, je peux dire. C'est une journée historique dans la mesure où c'est le retour du Hamas vers la Syrie. La Syrie n'a jamais changé de position vis-à-vis de la résistance palestinienne. Elle a toujours soutenu la résistance palestinienne depuis toujours. depuis ses premières formations, je dirais, dans les années 60, 68, 70. Hein. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de la stratégie et dans la politique syrienne. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le début du printemps arabe, tout ce qui est tristement appelé printemps arabe et qui s'est avéré une véritable catastrophe pour les pays arabes, le début en 2011-2012, on a vu certains dirigeants du Hamas aller dans le sens effectivement de la... De l'agression même de la Syrie. Ils étaient inféodés un peu à la Turquie, un peu à Qatar, et ils ont effectivement commis de grosses erreurs, y compris contre le peuple palestinien, contre le peuple syrien. Le camp à Yarmouk a été ouvert à Daesh, donc... parce que, en fait, à l'époque, ils pensaient peut-être que c'était effectivement un mouvement pour la démocratie et pour la liberté. Et au fur et à mesure que le temps est passé, ils découvrent leurs erreurs. Et en fait, depuis quelques mois, ceci dit, Israël, pendant toute cette période, n'a pas arrêté d'agresser aussi bien la Syrie que la Palestine, et en particulier Gaza, Al-Quds, Jérusalem, le peuple palestinien. Pendant toute cette période, la Syrie n'a jamais changé de position. Elle a soutenu la position de lutte du peuple palestinien contre l'agresseur israélien. Et c'est ce que la Syrie affirme toujours, que de toute façon affirme toujours son soutien, malgré cette guerre ignoble dont elle a fait l'objet venant de tout un tas de pays, 101 pays dans le monde hein, qui ont dépêché des terroristes qui sont venus agresser la Syrie, y compris des pays voisins, donc en partie donc la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, une partie des forces politiques libanaises aussi ont rejoint toutes ces hordes, je dirais, qui visaient à détruire la Syrie.
Or, merci,
la Syrie a tenu bon et a été victorieuse. Et aujourd'hui, les uns et les autres refont leurs calculs.
Merci, Madame Aïssa Hamidani. Monsieur Amrouni, vous qui êtes basé sur Paris, on voit cette dernière année en particulier une unification finalement des fronts, que ce soit de l'Afrique du Nord jusqu'au Moyen-Orient, jusque même vers l'Asie. On voit donc que malgré les guerres politiques, les guerres militaires et les guerres psychologiques dont ont dû faire face ces différents peuples, eh bien, cette unification a été possible ou est en train d'être possible.
Bien sûr, je reviens sur la question palestinienne et la Syrie. Il faut savoir que la question palestinienne est au centre de la politique syrienne, que ce soit la politique intérieure ou même extérieure. Donc le retour de Hamas vers la Syrie, c'est un grand événement. Ça montre très bien le réalisme de la politique syrienne et la vision stratégique du président Assad. Il faut bien comprendre cette vision du front de la résistance en tant que groupe, en tant qu'individu, en tant qu'État. Et ce front, il résiste face à la guerre psychologique, face à la guerre politique, face à la guerre économique et face à la guerre militaire tout court. Donc on est vraiment dans la guerre globale. Et cette visite va remettre en place, si vous voulez, le centre des forces de la résistance. Parce que le centre des forces de la résistance, c'est la Syrie. C'est pour ça que la Syrie, elle était attaquée, comme votre invité l'a bien précisé, par une centaine de pays. Et en plus, c'est les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, tout l'Occident presque, qui a voulu détruire la Syrie pour remettre en place, si vous voulez, un régime qui sert donc la politique israélienne, et même mettre un autre État comme Israël, que ce soit un État kurde ou un État islamo-sunnite, entre parenthèses. Donc, le front de la résistance a bien répondu, a bien résisté. Donc, c'est une victoire lorsqu'on voit Hamas à la rencontre du président Bachar el-Assad, c'est une reconnaissance de la victoire de la Syrie, c'est une reconnaissance de la victoire du front de la résistance. Par contre, à l'intérieur même de la Palestine, on voit bien le changement du caractère de la résistance. Aujourd'hui, on a des jeunes Palestiniens comme le grand martyr Adey, qui nous a montré à tous et surtout à la jeunesse palestinienne qu'il y a aujourd'hui une autre forme de résistance, il y a aujourd'hui une façon de résister de la jeunesse palestinienne qui déborde des organisations comme Hamas, comme le Jihad, comme le Fatah et comme le Front démocratique. Donc on a une nouvelle génération qui demande de nous de venir en aide et donc d'être en front uni. Est-ce que le président syrien a compris ce que le président Al-Assad, il reprend, si vous voulez, la maîtrise de la résistance arabe, que ce soit en Palestine, que ce soit en Syrie, au Yémen, ou même en Irak, et même au Liban. Donc on a une reconcentration, si vous voulez, un retour vers les sources, dans la Syrie, à Damas, qui devient la capitale de la résistance dans la région.
Merci, Monsieur Amrouni. Alors, Madame Aïssa Milani, étant donné que vous êtes vous-même à Damas, donc sur le territoire direct de la Syrie, il ne faut pas oublier que la Syrie sort quand même de 10 ans de guerre. On ne parle pas seulement donc d'une guerre militaire, mais également de sanctions, d'embargo. Il faut dire qu'entre la Syrie et l'Iran, il y a quand même une grande différence parce que l'Iran est industrialisé, ce qui n'est pas forcément complètement le cas pour la Syrie. Donc, ce genre d'embargo et ce genre de sanctions ont été beaucoup plus durs à supporter pour les Syriens. Est-ce que vous. Qu'est-ce que se passe dans l'esprit des Syriens à l'heure actuelle en voyant toutes ces résistances finalement s'unifier? Ils sont plus seuls face au combat, face aux choses et aux pressions qu'ils ont subies. Qu'est-ce que disent les Syriens à l'heure actuelle?
Alors, je voudrais préciser d'abord, la Syrie n'est pas seulement sous embargo. Elle sort de 10 années de guerre destructrice. Au plus fort, en fait, qui a détruit toute la structure, l'infrastructure, qui a détruit énormément de choses, qui continue à avoir ses ressources pillées, puisqu'il y a une occupation américaine autour des puits de pétrole et de gaz dans le nord-est de la Syrie, et que ces Américains s'appuient sur des bandes de mercenaires qui se font appeler FDS et qui se font taxer de Kurdes, alors que ce ne sont ni des nationales, ni des Syriens, ni des démocrates, mais ce sont purement et simplement des mercenaires, que la Turquie occupe aussi une partie dans le nord de la Syrie, et avec Idlib, qui sont vraiment les greniers de la Syrie, qui sont procédés à des destructions, au-delà des destructions des cultures, mais aussi à polluer les eaux, polluer les terres et à faire vraiment des processus, je dirais, pratiquement d'extermination. Ils arrêtent l'eau, ils pillent l'eau du pays par le biais de l'Euphrate, ils arrêtent les eaux de l'Euphrate, ils arrêtent les circuits de distribution d'eau. Je rappelle quand même que la ville de Hasakeh, avec sa campagne, sont privés d'eau aujourd'hui pour le 80e jour, donc sans que personne ne réagisse. Ils n'ont pas d'eau potable et l'État syrien essaye de parer à tout ça par tous les moyens. Donc il y a une guerre vraiment qui est énorme. Ajoutez à ceci donc un blocus important sur toutes les actions que peut mener la Syrie avec les autres pays et les relations avec les autres pays. Mais heureusement que donc la Syrie continue à résister. La Syrie est aussi un peu, elle est au centre de l'axe de la résistance de l'ensemble de la région. Grâce à nos amis l'Iran et la Russie, nous arrivons à avoir aussi des aides qui permettent aussi à la Syrie de vivre et au peuple syrien de vivre et de reconstruire à l'ombre de cet embargo horrible et criminel qui empêche toute vie et qui empêche toute transaction avec les autres pays. On ne peut pas exporter, on ne peut pas importer, etc. Le peuple syrien résiste aussi en construisant et aussi en se en améliorant ses agricultures de manière à ce qu'on redevienne un pays autosuffisant comme on l'a été en 2010 avant que ces agressions et cette guerre horrible ne commencent. Nous étions autosuffisants et nous n'avions pas un centime de dette. C'est ce qui déplaît énormément aux forces hégémonistes.
Il ne faut pas oublier que c'était un pays touristique aussi. Beaucoup de tourisme venait en Syrie. Il y avait Exactement. Énormément de lieux historiques. Alors, la mentalité des Syriens à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a de l'espoir, outre le fait qu'ils ont résisté pendant 10 ans, outre le fait que Assad est revenu aux dernières élections présidentielles extrêmement fort, avec une unité bien forte au sein du peuple syrien, avec ces dernières nouvelles de comportement de la résistance qui veut plus se lier avec les autres pays, les autres groupes de résistance, quelle est cette mentalité à l'heure actuelle en Syrie ?
Alors, je voudrais vous dire quand même, le peuple syrien n'a jamais perdu vraiment confiance. On a toujours eu confiance dans les directives et dans l'orientation du président Assad, qui, lui, a une vision stratégique qui est extrêmement importante et extrêmement claire, basée autour de la résistance et de la libération de l'ensemble du pays et de l'ensemble des pays arabes. Parce que la libération du Golan, la libération aussi de toute parcelle de la terre syrienne, aujourd'hui de l'occupant turc et de l'occupant américain. Donc, le peuple syrien continue à résister. Et il résiste dans l'espoir, je dirais, et dans la positivité. Ce retour à l'unité, si on peut dire, ce retour des Palestiniens vers la Syrie, qui aussi, en même temps, va dans le même sens qu'un retour même aussi des peuples arabes, etc. Je voudrais dire que la Syrie a donné espoir aux Palestiniens. Ce n'est pas un hasard aussi que les luttes des peuples palestiniens soient démultipliées depuis que la Syrie a commencé à enregistrer victoire sur victoire, ça d'une part, et d'autre part, je crois que l'Algérie aussi, le soutien de l'Algérie au peuple palestinien, au peuple syrien, et le soutien de nos amis de Hezbollah, qui est infaillible aussi à la Syrie, le soutien de nos amis iraniens, aussi permet de remporter ces victoires et a permis d'ailleurs, il faut le dire, de transformer le monde, hein, puisque ce monde qui était monopolaire et assujetti au diktat américain et à l'hégémonisme américain et des pays de l'OTAN, des pays occidentaux, a été cassé par cette résistance de la Syrie, par le fait que le plan du nouveau Moyen-Orient n'a pas pu être exécuté. Le plan américain Nouveau Moyen-Orient n'a pas pu être exécuté comme il le voulait. Au contraire, il a échoué par cette victoire de la Syrie. Et donc, la Russie, ayant intervenu à la demande de la Syrie en Syrie dès 2015, a pu aussi être partie prenante de l'échiquier international des décideurs, je peux dire. Et donc, maintenant, on voit que la Russie, dans cette lutte qu'elle mène contre les agressions de tous les pays de l'OTAN, elle a changé le monde. Le monde s'est transformé. On est en phase de naissance du monde multipolaire, ce qui va donner beaucoup plus, peut-être, de justice et de liberté à tous les pays qui aspirent à cela.
Merci,
et
Madame
tous
Midani.
Les pays qui aspirent à être autonomes, souverains et forts.
Merci, Madame Midani. Alors, Monsieur Amrouni, vous êtes à Paris. Il est vrai qu'on oublie que dans quelques semaines va avoir lieu le sommet de la Ligue arabe. Donc, est-il possible que la venue du Hamas en Syrie soit en lien avec ce fameux sommet qui va avoir lieu à Alger ?
C'est un sommet très intéressant, très important, mais il n'y a pas de lien entre la venue des Palestiniens, l'effort algérien, le retour de l'Algérie sur la scène internationale, sur la politique étrangère arabe. L'Algérie, elle a toujours soutenu la résistance palestinienne depuis son indépendance et même avant. Et aussi, elle a soutenu la Syrie. Et donc, le sommet arabe, la Ligue arabe qui va se tenir à Alger, je pense, bon, on n'attend pas trop de choses de ces pays arabes, parce que malheureusement, la résistance des pays qui résistent ne sont pas représentés dans cette Ligue arabe. Et cette Ligue arabe, malheureusement, elle était complice, si vous voulez, de l'effort de l'OTAN à détruire la Syrie, à détruire la Libye, à détruire l'Irak, à coloniser le Yémen. Donc, en fait, il n'y a pas de lien entre ce qui se passe dans les sommets de la Ligue arabe, qu'elle est morte depuis longtemps, en fait. Et c'est pour cette raison qu'on voit la stratégie du président Al-Assad. Même l'effort des Algériens, ils ont voulu que la Syrie soit présente, ce qui a causé quelques effrayements par rapport à certains pays arabes, comme l'Arabie Saoudite ou même l'Égypte, qui ne voulaient pas la présence de la Syrie. Mais le président syrien, il voit très très bien que cette ligue, elle est morte, parce qu'elle ne se sert à rien. À quoi elle a servi pendant 12 ans, cette ligue? Je me demande à quoi elle a servi. Elle a servi absolument à rien. Donc,
oui, mais avant excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Amrouni, mais si vous regardez les faits ces dernières semaines, Madame Idani peut-être pourrait confirmer, mais nous avons vu donc l'Arabie Saoudite faire un pas en arrière avec l'OPEP+, faire un pas en arrière vis-à-vis des États-Unis, mais cette fois bien clair, hein, non pas flouté. Nous avons vu également d'autres réactions de la part de certains pays arabes. Tout le monde pensait que certains pays arabes ou maghrébins ne viendraient pas à ce sommet. Finalement, je crois qu'il n'y a aucune annulation. Tout le monde va venir, alors que si on écoutait l'actualité internationale, l'Algérie ne faisait pas l'unanimité lors du sommet. L'Algérie s'attendait à avoir énormément d'invités à ne pas venir. Et finalement, on en est à 2 semaines avant le sommet, aux alentours de 2 semaines. Et presque tout le monde va venir, en fait.
Malgré, il y a eu combien de sommets depuis 30 ans ou 40 ans de cette Ligue arabe? Et depuis à peu près 40 ans, on est agressé par l'OTAN, on est agressé par les États-Unis, nos terres sont colonisées. 75 ans, ça fait 75 ans que la Palestine est colonisée, le Golan syrien, la guerre au Liban. Donc, en réalité, cette Ligue arabe, elle ne sert absolument à rien. Et le repositionnement de l'Arabie saoudite, aujourd'hui, l'Arabie saoudite, elle veut entrer dans le BRICS, par exemple, et même à Shanghai, et même à d'autres organisations qui sont créées par les Russes et par les Chinois. Donc la Ligue arabe créée par les Britanniques, elle se sert absolument à rien.
Merci, monsieur Amrouni. On manque de temps. Sommet-là. On manque de temps. Madame Idani, une conclusion peut-être par rapport à ce que monsieur Amrouni vient de dire?
Oui, moi je pense qu'effectivement les efforts de l'Algérie dans l'organisation de cette réunion de la Ligue arabe a été un effort important et qu'il faut saluer, qui était un effort sous le titre et dans l'axe de la réunion, de réunir toutes les forces, tous les pays arabes sur une même position qui est la position de soutien à la Palestine. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il y a eu aussi de grands efforts pour unifier les positions des fractions palestiniennes elles-mêmes. Donc, un effort qui a été déployé, qui est démesuré aussi, et qui a fini par la signature d'un accord entre les différentes factions.
Merci, Madame Idani.
Et c'est tout à fait louable. On peut dire qu'on avance, en fait, dans ce panorama de construction multipolaire. On avance vers une autonomisation de plus en plus importante, même des alliés.
C'est ce qu'on espère tous. Malheureusement, le débat s'arrête ici. Je suis désolée de vous interrompre. Beaucoup de choses à dire par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle au Moyen-Orient. Malheureusement, notre débat s'arrête ici. À voir dans les semaines futures si vraiment une union réelle peut se faire parmi les pays arabes. C'est à vous de voir, c'est à nous de vous en parler. À très bientôt pour un prochain débat sur Presse TV.
Mazandaran en raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran est très visitée. Riz, céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire, et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushich. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature. Dégringolade de l'économie et du niveau de vie en Europe. Les stupides sanctions prises contre la Russie ont mis en lumière les problèmes les plus saillants de l'Europe, qui est en train de perdre sa puissance économique à toute vitesse. Le nombre d'entreprises sur le point de déposer le bilan est colossal. Un afflux de migrants en provenance d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Ukraine exige des dotations budgétaires toujours croissantes. On dépense également beaucoup d'argent à soutenir le régime de Kiev. Conséquence de tout cela, les économies d'Europe se dégradent et le niveau de vie dégringole. En Grande-Bretagne, 60% des entreprises sont au bord de la faillite en raison des prix de l'électricité. C'est le groupe d'analyse Make UK qui représente les intérêts de l'industrie britannique qui donne ce chiffre. 13% des usines britanniques ont réduit leur horaire d'embauche et 7% connaissent une fermeture temporaire. Les factures d'électricité ont connu une croissance de plus de 100% par rapport à l'année passée. En Allemagne, si l'on s'en tient aux chiffres du Leibniz Institute for Economic Research, le nombre d'entreprises et de personnes ayant déclaré une faillite au seul mois d'août a augmenté de 26% par rapport aux chiffres de l'an dernier. Cet accroissement est significativement plus important qu'anticipé par les analystes. Selon les experts, au cours de l'automne, le nombre de faillites ne va faire que croître. Ceci se produit en lien avec l'accroissement des coûts des processus de production, en particulier avec l'augmentation des prix de l'énergie. Le chancelier allemand Olaf Scholz a reconnu que de nombreux Allemands sont confrontés à des prix qui augmentent sur le carburant et les denrées alimentaires. La plupart des pays d'Europe connaissent une situation similaire. Mais les autorités sacrifient la qualité de vie de leur peuple pour continuer d'exercer des pressions sur la Russie. De nombreux experts croient que la fermeture du Nord Stream va provoquer la pire crise énergétique d'Europe depuis des décennies. Ces circonstances ont déjà provoqué une forte augmentation des prix des ressources énergétiques sur le marché européen. En résultat, les factures énergétiques des foyers européens ont augmenté. Selon des analystes de Goldman Sachs, le coût cumulé de l'énergie va connaître un pic début 2023, jusqu'à atteindre les 2 000 milliards d'euros. Il a également entraîné à une dépréciation record de la monnaie européenne par rapport aux 20 dernières années. L'augmentation du coût du gaz, du chauffage et de l'électricité produit un effet néfaste sur le niveau de vie des peuples. Mais un problème plus dangereux encore réside dans la chute de compétitivité des produits européens qui sont produits suivant les nouveaux coûts énergétiques. Les produits européens deviennent non compétitifs sur le marché mondial. Leur prix augmente fortement à cause du coût de l'électricité et du gaz. Les tentatives menées par les dirigeants de l'Union européenne d'introduire un plafond sur les prix de l'énergie en provenance de Russie ont totalement échoué. L'Europe récolte ce qu'elle sème. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que les pays européens ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes au sujet des problèmes qu'ils auront à affronter l'hiver prochain suite à la diminution des livraisons de gaz russe. Pour reprendre ces termes, l'Europe récolte ce qu'elle sème, alors que la Turquie n'a aucun problème de fourniture de gaz. La crise en Europe est le résultat d'erreurs politiques. D'un côté, les sanctions contre la Russie ne profitent qu'aux États-Unis. Et de l'autre côté, l'imposition d'une économie post-hydrocarbures sur les Européens a prouvé son ineptie. En résultat, les prix de l'énergie en Asie et en Amérique latine sont aujourd'hui beaucoup plus faibles, tout comme les salaires des travailleurs. En d'autres termes, les produits européens sont devenus totalement non concurrentiels. Et nous constatons une diminution de la distribution de ces produits sur les marchés. Par conséquent, l'économie européenne a commencé à plonger dans la récession. En particulier, le directeur général de Deutsche Bank a affirmé le 7 septembre que l'Allemagne n'est plus en mesure d'éviter une récession. Elle achète d'ores et déjà nettement moins de matières premières auprès de fournisseurs majeurs tels que le Brésil, l'Argentine ou les États-Unis. L'Economist Intelligence Unit, un groupe de réflexion britannique, prédit que la croissance du PIB pour 2023 sera de 5,3% en Chine, 5,1% en Inde, 1,2% aux États-Unis, 0,3% en France, 0,3% au Brésil. Et elle sera négative dans divers pays, moins 0,6% au Royaume-Uni, moins 1% en Allemagne et moins 1,3% en Italie. La prochaine conséquence logique sera une série de fermetures en masse d'unités de production et un accroissement du chômage. Les entreprises technologiques européennes sont d'ores et déjà en train de réduire le nombre de postes d'ingénierie bien payés. Au mois de septembre, Siemens, le fabricant allemand d'éoliennes, a annoncé son intention de réduire le nombre de ses salariés de 1500 personnes. Dès lors, la montée du chômage va provoquer une chute du niveau de vie et une charge additionnelle sur les budgets gouvernementaux, au fur et à mesure que la lutte contre la pauvreté exigera de nouvelles dépenses sociales. Les économies européennes survivent grâce à des stimuli, mais cela aggrave l'inflation. Mark Rutte, le premier ministre hollandais, a déclaré « On ne peut pas aider tout le monde, alors que nous autres, en Occident, allons devenir un peu plus pauvres en raison du haut niveau d'inflation et des coûts élevés de l'énergie. » Les migrants provoquent la ruine des budgets. La crise de l'énergie et les problèmes de production ont été aggravés par les politiques migratoires qui exigent d'autres injections budgétaires dans la sphère sociale. L'afflux de migrants dans les pays européens au cours des deux dernières décennies est resté sous la barre du million de personnes par an. Mais l'an dernier, 1,3 million de gens ont immigré en Europe et cette année, on en compte déjà 1,8 million. Il faut prendre en compte le fait que certains immigrés entrent illégalement en Europe et ne sont pas comptabilisés. Il s'agit surtout de ressortissants somaliens, nigérians, gambiens, pakistanais, maliens, afghans, érythréens et syriens. En outre, plus de 10 millions de personnes ont quitté l'Ukraine depuis la fin du mois de février. Parmi celles-ci, au moins 6 millions de gens restent dans des pays européens, dont 3,7 millions ont déjà reçu le statut de réfugié. Le coût moyen par migrant ukrainien s'établit à 7 000 euros par an. Même sans les Ukrainiens, l'Allemagne dépense à elle seule 25 à 55 milliards d'euros par an sur l'aide aux réfugiés. L'économie européenne pouvait se permettre de payer ses dépenses colossales avant la crise énergétique. Mais désormais, la situation est telle que les dépenses ne font que croître pendant que les revenus sont en chute libre. Suite aux factures d'électricité et de chauffage catastrophiques, la population européenne est confrontée au chômage de masse, suivi par un déclin du soutien social apporté par les États. De tels processus ne peuvent que mener à un déclin du niveau de vie et à de profonds remous sociaux.
Mm-hmm.